France Musique. Et l'horloge indique 7h30 tout juste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans France Musique. Est à vous, nous écoutons ici comme chaque samedi vos plus belles idées musicales, celles qui vous touchent et qui vous réconfortent. Alors nous attendons vos suggestions via notre mail France Musique est à vous @radiofrance.com ainsi que sur les réseaux sociaux de France Musique. Nous avons appris la disparition hier soir de Jean-Jacques Benex, ce grand cinéaste français. Vous êtes donc nombreux à avoir réagi, à vouloir écouter les musiques de ses films. Et bien justement, nous sommes là pour ça. Ça tombe bien, ce sera vers 8h45. La suite de vos idées, et bien à vous de nous le dire, donc en nous contactant maintenant, là, pendant le direct, ou bien pendant la semaine, quand vous en avez l'inspiration. Des cadeaux pour vous également, dans 20 minutes à 7h50. Ce matin, nous vous offrons des places pour la folle journée de Nantes, le week-end du 29 janvier. Le concert de Lucas Geniusas précisément, mais aussi son disque Chant populaire paru chez Mirare. Notre jeu donc à 7h50. Les deux chroniques aussi à 8h. Une œuvre 3 idées par Marc-Olivier Dupin. 3 idées ce matin pour mieux comprendre et savourer les barricades mystérieuses de François Couperin. Et puis à 8h50, tendez l'oreille avec Christophe Dillis qui a retrouvé le trompettiste de tous les Star Wars et de Superman et qui apparemment a le vibrato des orchestres de cuivre en Angleterre dans lesquels il jouait petit. Nous commençons tout de suite notre émission avec vos idées et la suggestion de Marie-Hélène qui est à Clermont-Ferrand, qui écoute avec son mari dès son réveil France Musique et qui aimerait entendre l'adagio du concerto. Cette fois-ci dans un arrangement pour trompette et orchestre de Marcello, interprété par Maurice André. J'ai une admiration sans borne pour ce grand trompettiste, nous dit-elle, et cette œuvre me touche. On a beaucoup entendu Maurice André dans Haydn, Hummel, Albinoni, mais beaucoup moins dans Marcello. Il y a beaucoup de musiciens dans ma famille, nous dit Marie-Hélène, bugle, cor, trompette, et elle nous souhaite à toutes nos équipes une belle année 2022 en musique et nous remercie de la joie que vous apportez dans les foyers, nous dit-elle, et tout ce que vous nous faites découvrir ou redécouvrir.
Thank you.
les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Jesús López Cobos, avec Maurice André à la trompette dans cet adagio du concerto d'Alessandro Marcello, qui a été composé au tout début des années 1770, repris aussi par Jean-Sébastien Bach pour l'un de ses concertos pour clavecin, en tout cas ici dans cet arrangement que souhaitait Marie-Hélène, et c'était un arrangement d'Iran Jeftik. Nous écoutons vos voix, tout à l'heure nous serons au téléphone avec Alexandre, Stéphane et Jean-Christophe, et puis tout de suite le message vocal de Marielle qui est à Marseille.
Bonjour, je suis une auditrice de Fidèle, donc de France Musique, je suis marseillaise. J'ai choisi le mouvement numéro 2 de Giorgi Ligeti, utilisé d'ailleurs par Stanley Kubrick dans son dernier film. Alors pourquoi ce choix? Ben, je trouve que cette musique, ce morceau 2 de la Musica e Carcata, j'espère que je le prononce bien, ce morceau est magique, sobre, mélancolique. Et surtout riche de mystère, voilà, ça sera très bien pour démarrer, nous aider à démarrer l'année 2022. Voilà, merci.
Thank you.
Une œuvre composée presque uniquement de deux notes seulement, le mi dièse qui correspond au fa et puis le fa dièse, puis tout d'un coup c'est sol aigu dans ce deuxième mouvement de Musica Ricercata de Gheorghi Ligeti, à l'instant Dominique Arlan au piano, le compositeur qui a écrit principalement ce mouvement en disant « j'ai écrit cela comme un coup de poignard dans le cœur de Staline ». Stanley Kubrick l'avait utilisé dans son film Eyes Wide Shut en 1999. À 7h43, nous vous accueillons ici, comme chaque samedi, pour écouter vos idées musicales. Nous allons passer à quelque chose de très différent, avec plus de deux et trois notes. C'est un grand merci à Mireille, qui est à Anote. Tout de suite, elle nous a envoyé ce message. J'aimerais écouter une chanson des Compagnons de la Chanson, une jolie parodie de la 40e symphonie de Mozart qui s'intitule « Au temps de Pierrot et Colombine ». À chaque fois que j'entends cette pièce, je ne peux pas m'empêcher de fredonner cette charmante chanson. À mon tour de vous souhaiter une très belle année, ainsi qu'à toutes les équipes de France Musique.
Autant de Pierrot et Colombine, dans un monde moins fou qu'aujourd'hui. Pierrot n'avait pas d'automobile pour aller retrouver son ami.
Il courait à perdre haleine, sans s'arrêter aux fontaines. Il courait, courait, courait.
Quand Pierrot retrouvait Colombine pour aller l'emmener dans les bois, Pierrot n'ayant pas d'automobile, prenait sa douce amie par le bras. Et les mots lui venaient, et les phrases tournaient.
Et Pierrot bavardait, bavardait, sans penser à l'embrasser.
Et sans automobile, au bras de Colombine,
il prenait tout son temps, pour lui offrir ses 20 ans.
Pierrot rêvait de Colombine, qu'il savait toute seule à la ville. Pierrot n'ayant pas de téléphone, pour pouvoir appeler la mignonne,
allumait une chandelle, et couchait sur le papier les choses les plus belles.
Et Pierrot tout entier à sa plume, écrivait pour calmer son ardeur. Sous le regard distrait de la lune, souriant devant tant de bonheur. Et les mots lui venaient, et les phrases tournaient.
Et son cœur chavirait, chavirait, dans le bleu de l'encrier.
Et les mots voltigeaient, et les phrases tournaient.
Et quand venait le jour, il restait plus de 100 lettres d'amour.
Pierrot attendait Colombine qui faisait son travail à la ville. Pierrot n'avait pas d'électrophone pour tuer tout ce temps monotone.
Il prenait sa mandoline, composait des menuettes, des jolies cavatines.
Quand Pierrot épousa Colombine, il était poète et musicien. Colombine chantait dans sa cuisine en faisant sa lessive ou son pain. Et sans automobile, amoureuse et tranquille,
ils prenaient tout leur temps pour s'aimer éperdument.
Et sans le téléphone, et sans électrophone,
ils vécurent jusqu'à près de 100 ans et ils eurent beaucoup d'enfants.
Les compagnons compagnons de la chanson. Dans cette chanson, au temps de Pierrot et Colombine, une suggestion de Mireille, et vous avez reconnu la musique de Mozart. Merci pour vos mails qui nous arrivent en direct sur Instagram. Je vois Victoria, Vic, Benoît, Xavier, Rémi ou encore Dominique sur Facebook. Et puis nous recevons des mails également. Vous pouvez nous écrire francemusique@radiofrance.com, Sam ou encore Jacqueline qui vit à Thibault-de-Couze. Et puis tout de suite, nous accueillons Alexandre qui est à Paris. Bonjour Alexandre.
Bonjour Gabrielle.
Vous avez 36 ans et vous nous avez suggéré d'écouter Franz Schubert, un lead de Schubert, mais vous allez nous parler de vous. D'abord, vous chantez.
Oui, tout à fait. Depuis quelques années, j'ai l'occasion de démarrer la pratique du chant lyrique amateur. Mmh. Et à côté de ça, je suis choriste au sein de l'association Chœur et Orchestre des Grandes Écoles, que je salue. Mmh. Et d'ailleurs, on recrute. Donc, si vous êtes choriste amateur, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Toutes les voix ? Vous recrutez toutes les voix actuellement ?
Oui, toutes les voix, à tous les pupitres, et on a différentes formations avec plusieurs niveaux.
Vous arrivez à répéter actuellement ? C'est avec masque, j'imagine ?
Oui, pour les répétitions et pour les concerts, ça se passe avec masque, tout à fait.
Mmh. À côté de ça, vous avez un métier, Alexandre ?
Oui, je suis data analyst pour une plateforme internet qui s'appelle malte.fr.
Et ça veut dire quoi, data analyst ?
Alors, data analyst,
dans votre cas en tout cas.
On répond à des questions qui intéressent finalement les dirigeants pour leur permettre d'améliorer les décisions commerciales. Et pour ça, on va regarder les données qui sont collectées sur le site internet. On va les processer avec des méthodes statistiques ou des méthodes mathématiques et on va essayer d'en sortir des conclusions.
Bon, vous interprétez nos données pour développer des nouveaux services.
Voilà, des données anonymisées.
Alors Alexandre, on s'y connaîtra peut-être un peu plus avec Schubert, en tout cas pour moi. Vous vouliez nous parler du lied Der Wanderer de Franz Schubert dans l'interprétation de Hans Otter, ce baryton.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Sur le choix du Wanderer, donc c'est parce que le thème du voyageur, c'est bien sûr le thème central de l'œuvre de Schubert, de ce voyageur qui s'interroge sur la vie, qui s'interroge sur un idéal. Est-ce qu'on peut dire aussi, est-ce que cet idéal existe ? Et ce lied, je trouve qu'il résume bien pour les personnes qui connaissent un peu les lieds de Schubert, le cycle du Winterreise.
Oui, le voyage d'hiver, effectivement. Il y a cette solitude, voilà. Cette errance.
Tout à fait. Et sur l'interprétation de Hans Otter, c'est parce que c'est un très grand interprète de chant du XXe siècle allemand qui sur le lead a su s'illustrer avec sa matière vocale unique qu'il a réussi à adapter parce qu'en parallèle il était aussi capable de chanter des rôles wagnériens, donc avec une puissance beaucoup plus forte et surtout pour sa capacité à vraiment ciseler le texte et à en faire quelque chose d'assez fort et plein de couleurs.
Mmh. Voilà. Et c'est vrai que la voix de Hans Otter est très poignante, en tout cas dans ses interprétations des leaders de Schubert. Vous le chantez vous-même ?
Oui, j'ai l'occasion de le pratiquer de manière amateur avec mon professeur de chant, Joël Le Yon, que je salue aussi.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre de nous avoir
suggéré
tout cela. On vous souhaite une bonne continuation, de bons concerts et puis salut merci. Donc à votre association musicale. À bientôt.
Très bonne journée, merci.
Oh! das Leben alt und was sie reden, leerer Schall. Ich bin ein Fremdling überall. Wo bist du? Wo bist du? Mein geliebtes Land, gesucht, geahnt und nie gekannt. Das Land so hoffnungsgrün, so hoffnungsgrün. Das Land, wo meine Rosen blühen, wo meine Träume wandern gehen, wo meine Toten auferstehen. Das Land, das meine Sprache spricht, o Land, wo
un disque qui crépite 1946, cet enregistrement avec le baryton Hans Otter, accompagné par le pianiste Hermann von Nordberg, dans ce lied qui lui date de 1816, Der Wanderer de Franz Schubert. À 7h56, vous l'entendez, c'est donc l'heure de jouer avec nous. Je vous laisse vous rapprocher de notre site francemusique.fr. Vous cliquez sur l'onglet « Contactez-nous » à la page de notre émission « France Musique est à vous ». Nous allons donc jouer ce matin pour vous faire gagner. Alors, des places pour la folle journée de Nantes, le concert de Lucas Geniusas avec le Symphonia Varsovia et Alexander Rudin à la baguette. Ce concert aura lieu à la Cité des Congrès, à Nantes, donc le samedi 29 janvier à 11h45. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir à Nantes, vous pouvez quand même jouer puisque nous vous proposons de gagner le disque de Lucas Geniusas. Alors faites-nous bien savoir si vous êtes libre et sur place le 29 janvier à la folle journée de Nantes à 11h45. Et puis pour les autres, eh bien le disque. En tout cas, envoyez-nous vos coordonnées complètes et n'hésitez pas donc à bien nous préciser ce que vous préférez. Voilà, c'est jour de fête. La question de ce matin pour gagner ces places et ou ce disque, de quelle nationalité est le pianiste Lucas Geniusas ? Est-il russo-lituanien, franco-russe ou germano-russe ? Russo-lituanien, franco-russe ou germano-russe ? Je donne la bonne réponse, évidemment, tout à l'heure, en fin d'émission, et le nom des gagnants. Vous pouvez donc nous répondre. Continuez à nous envoyer, en même temps que votre réponse d'ailleurs, des idées musicales si vous souhaitez participer à l'émission. France Musique est à vous. À tout de suite pour la suite, donc, de vos suggestions. Et puis, dans quelques instants, également, la chronique de Marc-Olivier Dupin. À tout de suite.
Bonjour, je suis Alex Baupin. Je vous donne rendez-vous pour la première édition de l'Hyper Weekend Festival à l'Auditorium de Radio France à Paris, le dimanche 23 janvier à 20h. J'y reprendrai dans son intégralité l'album Love on the Beat, accompagné d'une formation de 20 cordes, mais aussi d'autres chansons iconiques de Gainsbourg avec Clotilde M, Françoise Fabian, Miossec, Alain Chamfort, Clou, Adrien Gallo, et quelques autres belles surprises.
En partenariat avec le Centre National de la Musique et France Télévisions. Réservez vite vos places sur hyperweekendfestival.fr. Merci d'écouter France Musique en ce samedi 15 janvier. Bienvenue à vous, il est 7h58 et donc nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec toutes les idées musicales que vous pouvez nous suggérer. Élise Lejeune est là, nous avons tout ouvert, la discothèque, les archives, on peut retrouver absolument tout ce que vous voulez ou à peu près. À 8h50, tendez l'oreille, la chronique de Christophe Dillis qui a retrouvé le trompettiste de tous les Star Wars et de Superman et qui apparemment a le vibrato des orchestres de cuivre des mines de charbon en Angleterre, dans lequel il jouait alors qu'il était tout petit. Donc, c'est en fin d'émission. Et puis, tout de suite, donc, Marc-Olivier Dupin, qui est à mes côtés, arrivé pour sa chronique Une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabriel.
Alors, après Ravel, aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec un autre compositeur français.
Oui, François Couperin avec cette extraordinaire barricade mystérieuse, Scott Ross.
Un tube de la musique baroque, n'est-ce pas ?
Oui, oui,
alors,
oui.
Alors, quelle est votre première idée, Marc-Olivier ?
Alors, la première idée, très simple, c'est que le thème est tout simplement génial. En quoi l'est-il ? C'est pas si facile à dire, mais ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'il a une simplicité apparente, avec son balancement rythmique sur quelques accords égrenés. En fait, il est d'une incroyable subtilité. Il joue sur l'illusion que la ligne mélodique est continue, alors que les résonances des cordes pincées du clavecin sont chacune d'une grande brièveté. Et sans trop m'aventurer sur des sujets complexes de psychoacoustique, on peut considérer qu'il y a en musique un phénomène comparable à la persistance rétinienne dans la perception que nous avons du son. Vaste sujet. Toujours est-il que Couperin crée avec ses quelques notes de cette cellule de départ un mouvement continu irrésistible que nous ressentons comme une mélodie. En voici une autre version d'une grande fluidité, cette fois au piano, avec Alexandre Tarot.
Mais grâce à vous, du coup, je l'entends autrement, cette barricade avec ses illusions, avec la résonance. Quelle est votre deuxième idée, Marc-Olivier ?
Alors la deuxième idée est un peu iconoclaste et paradoxale, mais Couperin est d'une certaine façon un maître de la musique répétitive. Oui, à partir du thème qui est lui-même répétitif, mais la structure du rondo, qui est par définition le retour du thème, il décline systématiquement la cellule mélodique dans tous ses états. Et de fait, nous sommes proches de ce que rechercheront quelques siècles plus tard Steve Reich, Phil Glass et John Adams dans d'autres esthétiques. Voici de Steve Reich le début de Piano Face par Mahound Esfahani.
On va passer de Reich à Couperin, donc. Quelle est votre troisième idée ?
Alors, comme plusieurs de ses contemporains, Couperin préfigure des développements instrumentaux dont s'empareront de nombreux compositeurs au XXe siècle. La rapidité, la vélocité, l'arpègement seront quelques-uns des ingrédients utilisés. Ce renouveau de l'engouement pour le clavecin est en partie dû à la grande claveciniste Wanda Landowska, qui sera à l'origine de nombreuses créations. Elle crée ainsi le concerto de Falla en 1926 à Barcelone, entouré des musiciens de prédilection de Casals. De fougueux arpèges s'invitent dès le début de l'œuvre. Alors cet élan donné par Wanda Landowska trouvera sa continuité dans la seconde partie du XXe siècle avec de nombreuses créations pour clavecin, de Penderecki, Schnittke, Ciarino, Marius Constant et de bien d'autres compositeurs. Le continuum de Gyorgy Ligeti explore de magnifiques textures sonores, lui aussi en jouant sur les phénomènes répétitifs, mais ici qui dérape un peu, une vraie merveille. Voilà quelques magnifiques doubles croches de Ligeti par Elisabeth Chojnaka avec Continuum.
Continuum donc de Gyorgy Ligeti qui conclut votre chronique sur Couperin. Merci beaucoup Marc-Olivier.
Et avec joie.
Du pain, évidemment, nous pouvons réécouter cette chronique sur francemusique.fr et sur l'application Radio France. À la semaine prochaine, bon week-end.
À la semaine prochaine, vous aussi.
France Musique est à vous. Gabriel Olivera Guyon.
Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Ma nuit d'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Paris, ils l'ont fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi.
Jean-Pierre Ferland, auteur, compositeur, interprète québécois, à l'instant dans cette chanson « Je reviens chez nous ». C'était une suggestion de Plus d'atomes sur Twitter et il nous dit « Bonjour, allons chercher du bois hier, il m'est venu en tête cette chanson « On fait du feu dans la cheminée ». Et donc il nous la suggérait, cette chanson chaleureuse comme il dit, et il nous souhaite à tous une très bonne année ainsi qu'aux auditeurs. Je partage donc tout de suite au téléphone avec nous Jean-Christophe depuis Toulouse. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Gabriel, mais ça m'arrive souvent qu'on se...
Pardon, excusez-moi.
Non, pas de souci. Ça m'arrive régulièrement. Jean-Christophe.
Oui.
Alors, vous vouliez nous faire écouter Schoenberg, mais on va parler de vous d'abord. Est-ce que vous êtes musicien, Jean-Christophe ?
Non, je ne suis pas du tout musicien. Comme je vous le disais, j'ai eu deux tentatives de pratique musicale, à chaque fois des périodes un peu difficiles, qui ont la première qui a beaucoup déçu ma mère qui voulait que je fasse du violon jeune. Mmh. Et je venais de perdre mon père, donc c'était un peu compliqué. Et puis la deuxième fois quand j'ai commencé mes études de médecine, et c'était pas non plus le bon moment pour le faire.
Mmh. Vos enfants par contre pratiquent eux quelques instruments.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un transfert de compétences ou de désir. Donc, ils ont pratiqué en classe à horaire aménagé. Donc, pour Valentin, l'aîné, la clarinette et puis la batterie. Et puis Nathan, donc la flûte traversière et le hautbois.
Jean-Christophe, à côté de la musique, vous pratiquez l'escalade, c'est ça?
Oui, je fais de l'alpinisme et puis de l'escalade. Un peu moins d'escalade parce que je me suis un peu abîmé une épaule, donc je n'arrive plus à aller dans sur les faces auxquelles j'aimais aller, donc j'ai un petit peu changé ma pratique.
Et vous êtes professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine de Toulouse et médecin biologiste actuellement. Vous travaillez plus en ce moment pour le Covid ou vos activités ne sont pas plus liées que ça?
Qu'est-ce qui se passe? Mon champ d'activité est peu sur le Covid, mais il se trouve que j'ai une collaboration avec des collègues parisiens sur un projet... sur le virus pour essayer de comprendre comment le virus entre dans les cellules et éventuellement se servir de cette connaissance pour essayer de contrer cette entrée et réduire le risque de maladie.
Alors Jean-Christophe, revenons à la musique. Schoenberg, La nuit transfigurée. On avait hésité en échangeant avec vous entre l'interprétation du quatuor Eben, une sortie toute récente, et puis celle du quatuor Artemis, complétée par deux musiciens du quatuor Alban Berg. Pourquoi cette œuvre ce matin ?
Alors, c'est la découverte de cette œuvre qui était un choc, parce que j'imaginais que Schoenberg était un peu inaccessible et à l'occasion d'un concert, un ami m'avait indiqué qu'il y avait cette représentation au musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2016, et nous y sommes allés. C'est vrai que ça a été une grande découverte de cette espèce d'homogénéité du morceau, finalement qui est assez accessible, très...
Oui, il y a des beaux accents de romantisme dedans.
Oui, exactement. On est imprégné, on est pris par le. Et j'ai eu l'occasion de le réentendre dans la petite salle à la Philharmonie. Et de nouveau, le même plaisir. Et du coup, j'avais acheté ce disque d'Artemis et que j'écoute. Alors, j'ai eu une période où je l'ai moins écouté puisque j'ai eu des problèmes d'ampli. Voilà. Donc, c'est un morceau qui nous prend du début à la fin. Et d'ailleurs, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas le meilleur morceau pour votre émission puisque c'est un petit peu compliqué, il est tellement continu.
Ça dure une vingtaine de minutes. Mais avec la réalisatrice Françoise Cordet, on a trouvé un passage qui nous plaît, qui correspond à tout ce que vous venez de dire dans l'interprétation du Quatuor Artemis, justement, avec deux membres du Quatuor Albanberg, l'altiste Thomas Kakuska et puis Valentin Herben au violoncelle. Mais tout va bien, on s'est arrangé et on sera ravis d'écouter Schoenberg grâce à vous. Merci Jean-Christophe.
Merci à vous.
Vous revenez quand vous voulez. À bientôt.
Merci, au revoir.
Thank you.
La nuit transfigurée, un extrait composé par Arnold Schönberg dans cette version pour sextuor à cordes, le quatuor Artemis, ainsi que Thomas Kakuksa à l'alto et Valentin Herben au violoncelle. Bonjour à vous, merci pour vos messages d'ailleurs qui accompagnent souvent la réponse à notre jeu pour gagner des places à Nantes ou le disque de Lucas Geniusas, Jacqueline à Besançon, Amédée, Étienne qui nous précise être un auditeur tout récent ou encore Marc à Tens. Et tout de suite, deuxième message vocal, c'est celui de Geneviève.
Bonjour, je m'appelle Geneviève et j'ai choisi comme musique la symphonie alpestre de Richard Strauss. Pour moi, c'est un peu comme une préparation culinaire. On met tout sur la table, instruments, ingrédients, et ainsi le sujet est prêt à être traité. Tout est calme, en attente, avant la montée. Et pif, bap, boum! Cela démarre dans tous les sens, les mains par-ci, par-là, le regard là. On goûte, on tape, on écoute, mais avec justesse, en se semblant de désordre. On monte en pression. L'activité est intense, on prend ci, on prend ça, et après le calme revient, le silence. Au moment où on va déguster le mets préparé, et toutes les étapes anarchiques du plat sont sublimées à l'instant où l'on goûte. L'esprit s'envole en prenant conscience de l'explosion de plaisir que ces goûts génèrent en soi. Et aussi, vous savez, comme le matin, le calme du lever, le brouhaha de la journée, et enfin le soir tombe. Ce temps entre chien et loup, le ciel est parfois rose, rouge, orange, et où l'on se demande si on va vivre ou mourir. Voilà, je vous souhaite une bonne année et merci à vous.
Thank you.
Les cloches de la symphonie alpestre, opus 64 de Richard Strauss, interprété par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham, dirigé par Andris Nelsons. 8h30, tout juste, merci d'écouter France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour vos suggestions musicales. Juste avant, c'était Geneviève avec sa recette de cuisine pour Strauss. Et tout de suite, c'est celle de Mathéo, qui souhaite nous soumettre une rareté des extraits des chants de Castille d'Henri Collet, d'inspiration folklorique d'Espagne, de la région de la Castille. Malheureusement, on nous dit Mathéo, Henri Collet est méconnu par le public, ses compositions pour piano sont rarement diffusées. Mais c'est donc l'occasion de l'écouter grâce à vous ce matin. Henri Collet, qui est mort en 1951, professeur de littérature espagnole au lycée Janson de Sailly, compositeur, critique musical également, c'est vrai qu'il est connu pour avoir été l'inventeur et le promoteur, va-t-on dire, du groupe des Six, qui a rassemblé dès 1920 Francis Poulenc, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Germaine Taillefer et Louis Duret. Mais effectivement, Henri Collet était un grand musicologue et un compositeur de 200 opus. Voici donc Al Parao, l'un des cinq chants de Castille d'Henri Collet par Pascal Gallet au piano. Très belle cette pièce, l'un des cinq chants de Castille, composé par Henri Collet. C'était à l'instant Al Parao et c'était Pascal Gattet au piano.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous.
Merci pour vos messages Jean-Julien, Anne-Marie à Montrouge ou encore Nirina. Et tout de suite à Saint-Ouen, c'est Stéphane que nous accueillons. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Bonjour, France Gabriel. Musique est à vous. Vous êtes photographe Stéphane?
Oui, tout à fait.
Vous photographiez quoi?
Alors, chez quoi? Ben, chez beaucoup de reportages, de portraits, comme beaucoup de photographes. Je suis photographe auteur, comme on dit, auteur-photographe.
Et vous enseignez et, également voilà. La photographie?
J'enseigne également la photographie depuis pas mal d'années. Et voilà.
Et comment ça se passe avec le numérique? Les deux s'enseignent ou vraiment le numérique prend la place aussi dans cette école de photo dans laquelle vous enseignez?
Alors, de fait, le numérique prend la place, mais les élèves, les jeunes, sont très attirés par l'argentique.
Oui.
Parce qu'il y a le côté magique de la photo argentique qui n'existe plus trop en numérique. Voilà, donc il y a toujours les deux qui sont enseignés dans cette école et dans d'autres écoles en France.
Mmh. Alors Stéphane, vous nous dites que la musique fait partie de votre vie. Votre père avait donc étudié le piano, la composition, professeur de musique. Il s'appelle Daniel Ouzounov. Et vous avez une belle anecdote à nous raconter alors que vous étiez enfant. Je vous laisse nous la raconter, Stéphane.
Oui, c'est sympathique de m'accueillir pour ça, effectivement. C'est un souvenir qui revient toujours en fête de fin d'année, aux abords de Noël. On allait chez des amis à côté de l'opéra, avec mon père, ma mère, mon frère Alexandre, et moi-même. Et on était dans les embouteillages, tout ça. À un moment donné, il y avait un problème de circulation, et mon père ouvre la fenêtre et demande à un policier qui était là son chemin. Et il faut imaginer la scène, il faisait froid, il y avait des lumières, il y avait de la musique qui était diffusée. Et d'un seul coup, on reconnaît la fameuse valse. Je dis la fameuse parce que d'un point de vue familial, c'était vraiment un morceau emblématique. Et qui était diffusée dans les rues de Paris. Et donc ça, c'est un...
Et la valse, on peut le préciser, valse composée par votre père.
Valse composée par mon père, Daniel Ouzounov, et qui était interprétée par les structures sonores, la Sri Bachet, à l'époque. Voilà, donc ça a été une œuvre composée dans les années 60. Et donc, j'ai ce souvenir qui revient à chaque fois en fin d'année, lorsque je me trouve dans ce quartier de l'opéra ou des grands magasins. Cette musique était dans l'intime, puisque moi, je l'écoutais chez moi, en famille. Et d'un seul coup, elle était livrée au public, à plein de gens qui déambulaient dans ce quartier. Et donc, il y avait comme ça un moment assez merveilleux.
Dans les rues de Paris. Vous pouvez nous parler un peu de ces structures sonores des frères Bachet?
Alors, moi, je suis pas un grand spécialiste des structures sonores, mais ce sont des gens qui ont créé des instruments, notamment l'orgue de cristal, qui a une sonorité particulière. Peut-être, ça ressemble un peu aux ondes Martenot. Bon, là, je m'avance peut-être. Mais en tout cas, il y avait plein de percussions, il y avait des objets, c'était de la sculpture, vraiment, hein. Ils étaient sculpteurs, presque. Et donc, c'était dans les années 60. Maintenant il y a une association qui continue, qui fait vivre ces structures sonores. Il y a des compositeurs aussi qui ont repris le flambeau. Les frères Bachet, je crois, sont disparus. Il y avait aussi Jacques Lasserie, qui était un pianiste de variété et compositeur, qui travaillait dans cette structure.
Mmh. Et cette œuvre, votre père l'avait écrite à la base pour orchestre, et là ensuite elle a été transcrite à l'intention de ces structures sonores.
Voilà, apparemment, c'était pour l'œuvre a été écrite pour une émission de radio, pour un générique d'émission de radio. Et ensuite, les structures sonores ont repris cette œuvre. Il y en a une autre qui s'appelle La Marche. Voilà, ce sont deux petites œuvres qui ont été transcrites pour les structures sonores et qui, je crois, sont tout à fait... la musique est tout à fait bien portée par cette sonorité du cristal Bachet.
La valse composée par Daniel Ouzounov. Merci beaucoup, cher Stéphane, de nous avoir raconté cette anecdote. Et nous allons découvrir ces structures-là, dans cette œuvre-là, grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée à vous. Thank you.
Bernard et François Bachet qui avaient inventé ces instruments uniques, originaux, qui utilisent le verre, le métal comme conducteur de vibrations sonores. C'était à l'instant Jacques Chollet et Daniel Ouzounov aux percussions dans cette valse composée justement par Daniel Ouzounov. Nous continuons à écouter vos voix à 8h40. C'est tout de suite le message de Sonia.
Bonjour France Musique, bonjour les auditeurs et bonjour à Gabriel et à toute l'équipe. Je vous remercie de me donner la possibilité aujourd'hui de vous faire écouter un extrait de ces suites pour violoncelle de Bach interprétées à la lyre crétoise. J'avais découvert cet enregistrement il y a quelques années sur France Musique même et je n'ai jamais eu la possibilité de réentendre cette interprétation. Bien sûr, les suites pour violoncelle de Bach sont très chères à mon cœur. J'ai étudié un temps le violoncelle, j'avais commencé très tard, donc il n'était pas question d'en faire un métier. Mais j'ai toujours cet instrument parmi mes préférés. Voilà, il y aurait plein de choses à dire. Je vous remercie beaucoup et j'espère que beaucoup seront sensibles comme moi à cette interprétation. Au revoir.
Labouret numéro 2 de la suite, numéro 3 en ut majeur, BWV 1009 de Jean-Sébastien Bach, interprété à la lyre crétoise, cet instrument de musique à trois cordes à archet, ici interprété par Yorgos Kaloudis. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter un bon anniversaire à Fanis qui justement nous écoute en Crète. Et si j'ai tout suivi, on dit Kronia Pola. Voilà, c'est le bel hasard de cette émission à 8h43. Nous vous l'avons dit en ouverture d'émission, nous avons appris hier le décès du grand cinéaste français Jean-Jacques Benex, mort des suites d'une longue maladie. Il avait 75 ans, des films qui ont marqué les années 80, entre autres Diva 37.2. Vous avez été nombreux à réagir. Pierre-Louis nous a écrit, Pauline et Adrien également, de la tristesse dans vos mots et puis la nostalgie de ces années, avec particulièrement la musique dans ses films, cette air de la Wally d'Alfredo Catalani dans Diva, ou encore cette musique de Gabriel Yared, si belle dans 37.2. Et justement, le 21 janvier l'an dernier, depuis l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, était donné un concert consacré aux musiques de Gabriel Yared dans le cadre du prix France Musique SACEM de la musique de film. C'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui jouait avec Gabriel Yared au piano, qui a joué quelques-unes de ses œuvres, Gabriel Yared, qui avait donc composé la musique du film 37.2, film de Jean-Jacques Benex qui nous a quittés. Un concert à revoir et réécouter sur francemusique.fr et c'est l'occasion pour nous d'écouter cette Betty Blue. Thank you. L'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Gabriel Yared au piano et Lewis Morrison au saxophone dans cette Betty Blue, extrait de 37 de Le Matin, film de Jean-Jacques Benex à qui nous rendons hommage ce matin. Il est décédé, il avait 75 ans. Betty Blue, nous dit Gabriel Yared, qui nous écoute d'ailleurs, je le salue. Il disait, avec Jean-Jacques Benex, nous nous sommes dit qu'il fallait que la musique précède les images à cause de la scène qui se passe dans un magasin de piano. Betty et Zorg se déclarent leur amour en jouant du piano. Tout de suite, à 8h49, nous accueillons la chronique de Christophe Dillis. Alors exceptionnellement, ce matin, tendez l'oreille, est en rediffusion. La voici.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez du plus célèbre des trompettistes, mais que personne ne connaît.
Oui, je voudrais vous parler aujourd'hui de Maurice Murphy. Maurice Murphy est né en 1935 à Londres, dans l'Angleterre du roi George V, dans une famille de mineurs quand il a 4 ans. Il monte avec sa famille dans le nord de l'Angleterre pour se rapprocher des mines. Il passe alors son enfance à jouer du cornet à piston dans des petits orchestres de cuivre. Ça marche tout de suite très bien pour lui, il a d'énormes facilités. En 1956, il devient cornet solo d'un des plus emblématiques orchestres de cuivre de mineurs anglais, le Black Dyke Mills Band. Le voici au cornet, dans un petit caprice pour cornet de George Wilcox. Je voudrais surtout que vous écoutiez ce vibrato typique des brass bands anglais. Ce vibrato, retenez-le, il nous servira tout à l'heure. Avec le temps, Maurice Murphy délaisse un peu le cornet à piston pour la trompette, si bien qu'en 1977, il devient trompette solo du London Symphony Orchestra, poste qu'il occupera pendant 30 ans. Avec le LSO, il jouera toutes les plus grandes œuvres du répertoire, Mahler, Wagner et même Handel et Bach.
Et ce n'est pas le même vibrato.
Exactement, Gabriel. Maurice Murphy a l'intelligence de mettre de côté son vibrato de brass band pour le répertoire symphonique. Il s'adapte à tous les répertoires. Mais Gabriel, je sais ce que vous allez me dire.
Mais pourquoi diable parler d'un obscur trompettiste anglais?
Quand je pourrais très bien prendre ce temps pour parler de Katia Bouniatichvili ou d'une paire de capucons. Eh bien, parce que sa toute première note en tant que trompette solo du London Symphony Orchestra à son tout premier jour, le 5 mars 1977, est devenu le si bémol aigu le plus célèbre de toute l'histoire. Tendez l'oreille. « Star Wars, musique de John Williams. Ce jour-là, tout le London Symphony Orchestra est subjugué. John Williams est impressionné et parlera par la suite du son de Maurice Murphy comme la voix idéale d'un héros. Oui, Gabriel et tout le monde à la maison, Maurice Murphy est le trompettiste solo des Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3, mais aussi la liste est longue, des aventuriers de l'Arche perdue, de Superman, quelques Harry Potter, les Dents de la Mer, Stargate, Gladiator, Alien, etc. Ça veut dire que, au cinéma, quand vous entendez, par exemple, ceci... Indiana Jones, vous avez aussi dans Stargate. Tout ça, c'est Maurice Murphy, le petit cornettiste à piston des orchestres des mines du nord de l'Angleterre.
Et il reste des traces de son vibrato de brass band anglais dans ses musiques de films aussi ?
Eh bien oui, ça et là, les brass bands anglais sont connus pour ça. Ils ont un vibrato très particulier, très serré, qui pourrait faire partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Écoutez un des tout premiers enregistrements de brass band. Nous sommes en 1912 avec l'orchestre Basses of the Barn. Écoutez le vibrato. Et maintenant, écoutez ce solo de trompette de Maurice Murphy dans Superman. Vous allez voir, on peut y entendre ce vibrato centenaire des musiciens de la mine en Angleterre. Voilà, Maurice Murphy avec sa trajectoire allant de la mine aux étoiles. C'est assez chouette de se dire que le son de trompette américaine des grands films hollywoodiens vient en fait du son traditionnel des musiciens anglais mineurs de charbon. Alors son vibrato de brass band, il ne le pratique pas dans les grands moments de fanfare orchestrale, mais dès qu'il a un solo, le naturel revient. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça assez émouvant.
C'est vrai que c'est touchant.
Ouais, hein, c'est un attachement aux racines, quoi. Et je pense que tous les trompettistes qui nous écoutent et qui ont grandi en orchestre d'harmonie et en brass band savent de quoi je parle, Gabriel.
Merci beaucoup et je salue Jacques à Amélie dans les Pyrénées-Orientales qui nous disait il y a quelques jours pourquoi entend-on peu, si peu, cet instrument sur France Musique, la trompette. Ben voilà.
Ben oui, voilà.
Grâce à vous, c'est tout bon.
Ben voilà.
Merci pour cette chronique que l'on peut réécouter bien sûr sur notre site francemusique.fr et bon week-end, à la semaine prochaine.
Ben vous aussi, bonne semaine.
Merci Christophe. Ainsi s'achève notre France Musique est à vous. Aujourd'hui, je salue Christophe et Émilie. Un joyeux anniversaire à Katia, Emmanuel, Gaël et Rémi qui nous écoutent dans le Vaucluse, Éric au Havre, Gilbert ou encore Jacques à Saint-Sébastien-sur-Loire. Merci pour votre participation. Notre jeu ce matin, il fallait nous répondre. Russo-lituanien, la nationalité du pianiste Lucas Geniusas qui sera en concert à la Folle Journée de Nantes le 29 janvier. D'ailleurs, Karine, François et Lydia, vous avez gagné ces places pour ce concert. Quant au disque, c'est Marc Attance, Thierry à Perpignan et Carole à Paris qui le recevront. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique. On se retrouve samedi prochain à 7h30. Merci à toute l'équipe, Lisa Crépy et Élise Lejeune, le discothécaire de la radio, Nicolas Bichet qui nous aide beaucoup, Françoise Cordet à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Emmanuel Morse-Duncan et Cindy Legrumelec. D'ailleurs, pour la Folle Journée, si vous avez des grands souvenirs, des anecdotes par rapport au festival cette année consacrée à Schubert, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part de ces souvenirs. Nous programmons toutes vos suggestions musicales liées à cette folle journée. Bonjour Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour Gabrielle.
Alors, 2 heures de concert tout de suite. Que va-t-on pouvoir entendre grâce à vous Charlotte ?
Eh bien, j'espère que vous aimez le piano car aujourd'hui on va s'intéresser aux pianistes français.
Qui sont venus donc jouer à la Maison de la Radio et de la Musique.
Exactement.
Bonne émission Charlotte,
merci,
à bientôt.
Merci, bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.